puissante de style dévot, mais meurtrière. Et au fond, il n'avait pas fait une mauvaise opération, puisque l'évincement de son frère aîné l'avait changé en héritier à part entière. Quant à la mère, elle se lamentait. C'est l'affaire des femmes de pleurnicher, selon Bernardone. La bonne Pica ne s'en privait pas. Un peu agaçant, ses sanglots étouffés. Mais il fallait s'y attendre. Rencontrer François dans les rues était inévitable. Bernardone n'y manqua pas. On voudrait croire qu'il eut un mouvement du cœur aussi brusque qu'inattendu. Ce fut tout le contraire. Dès qu'il vit son fils, il le maudit avec force. On ne sait ce que dit alors François. Peut-être garda-t-il le silence et passa, mais l'incident se renouvela à plusieurs reprises. François, vêtu comme un pauvre, recevait la malédiction paternelle en présence de passants scandalisés, et il devait en souffrir, car il finit par imaginer un moyen d'atténuer la tristesse de cette épreuve. Un mendiant nommé Albert, choisi pour son aspect vénérable, fut chargé pour lui, moyennant la moitié des aumônes qu'il recevrait, de l'adopter pour fils, de l'accompagner dans ses courses à travers la ville. Et chaque fois qu'il se trouvait face au drapier, et que celui-ci proférait sa malédiction habituelle, Albert faisait un signe de croix sur son fils adoptif et lui donnait sa bénédiction, détournant ainsi la mauvaise parole du père dénaturé. François disait alors à Bernardone : Crois-tu que Dieu ne soit pas capable de me donner un père qui me bénisse pour annuler tes imprécations ? Cette scène étrange surprenait les assisiates. Elle les touchait aussi. Elle ne touchait pas du tout Angelo, qui guettait le moment de décocher son trait empoisonné. L'occasion, il la trouva par un matin d'hiver glacial, où, vêtu de haillons, François priait en grelottant. Assez fort pour être entendu, son frère dit alors à un voisin : Demande donc à François de te vendre pour un sou de sa sueur. La réponse vint sans tarder, en français. Joyeuse, accompagnée d'un sourire. Je l'ai déjà vendu au Seigneur. La voie étroite. François savait bien qu'on ne va pas à Dieu par les consolations, le chemin court étant la souffrance qui mène à lui tout droit. Cette joie surnaturelle qu'il habitait voisinait avec la maladie et des mortifications intérieures reçues comme des grâces, non sans batailler quelquefois. Le vieil homme n'en finissait pas de mourir. L'amour-propre, surtout, avait la vie dure. Un jour que François allait mendier de l'huile pour la petite église de San Damiano, il se trouva devant une maison et s'apprêtait à frapper à la porte quand, par une fenêtre entr'ouverte, il vit non sans émotion un groupe d'hommes parmi lesquels il reconnut d'anciens compagnons de fête. Pour eux, la fête continue, sans lui. Ils chantent, il danse et s'apprête à jouer après avoir festoyé. Il voit tout cela. Il regarde. Le flot des souvenirs envahit l'âme avec une force extraordinaire, surtout si la musique s'en mêle. Pris de honte, il n'ose entrer. Et le rouge au front, il s'éloigne. Cette minute de faiblesse nous rapproche de lui. Dans la cruelle incertitude qui suivit, il s'accusa durement de lâcheté, et revenant sur ses pas, courut jusqu'à cette maison. Là, avec une humilité profonde, il fit un aveu public de sa faute. On imagine la scène, la stupeur des passants qui n'y comprenaient rien, et jusqu'au battement de cœur de ce petit homme en haillons qui luttait vaillamment lui-même contre le démon de l'orgueil. Lorsqu'il se fut ressaisi, il pénétra chez les joueurs et présenta sa requête en français. Pourquoi en français ? Parce que c'était François, et qu'avec ses compagnons d'hier, il parlait français. On l'écouta en silence. Il dut y avoir un moment de gêne extrême. Ce mendiant, ils n'en croyaient pas leurs yeux, c'était le prince de la jeunesse, le Dominus d'antan qui demandait de l'huile pour l'amour de Dieu. Et comment